au sommaire de ce journal, les condamnations à affût pour la profanation mercredi du Coran dans la capitale suédoise. L'Iran salue la reprise et le développement des relations avec l'Égypte et le Maroc. Et puis le chargé d'affaires iranien à Londres évoque la possibilité de parvenir à un accord sur la levée partielle des sanctions anti-iraniennes. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les condamnations à affût pour la profanation mercredi du Coran dans la capitale suédoise, après qu'un homme a brûlé le livre saint devant une mosquée. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que permettre des insultes aux valeurs islamiques et au Saint-Coran est inacceptable sous quelque justification que ce soit. Réagissant à cette énième offense, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires suédois à Téhéran. Il a été perpétré par un citoyen extrémiste irakien vivant en Suède lors d'une manifestation autorisée et soutenue par la police. Qualifiant d'inacceptable que la Suède autorise le blasphème et la profanation du Saint-Coran, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran s'est exprimé en ces termes. La démocratie et la liberté ne consistent pas à donner libre cours à de tels comportements qui ne font qu'encourager le terrorisme et l'extrémisme. Nombreux pays musulmans ont également dénoncé l'acte inacceptable. Le gouvernement irakien a également condamné la profanation, appelant Stockholm à extrader l'homme. Le dignitaire religieux chiite irakien, le grand ayatollah Ali Sistani, a envoyé une lettre au chef de l'ONU dénonçant la profanation. L'honorable ayatollah Sistani a déclaré que la liberté d'expression ne peut pas être une excuse pour des actes aussi honteux. Il a appelé l'ONU à aider à mettre fin à de telles mesures. La Turquie a également condamné la profanation du Saint-Coran. Tout en condamnant la profanation du Saint-Coran, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont convoqué les ambassadeurs suédois à Abu Dhabi et à Amman, avant de lui notifier que l'instrumentalisation de la liberté d'expression ne justifie pas un acte aussi odieux. À Beyrouth, le ministère libanais des Affaires étrangères et le mouvement de la résistance Hezbollah ont condamné l'acte sacrilège. Pendant ce temps, le gouvernement yéménite a déclaré que le ciblage des sanctuaires islamiques était encouragé par le lobby israélien qui domine l'Europe. Ailleurs, au Maroc, le gouvernement a dénoncé la profanation et a rappelé son ambassadeur en Suède pour une durée indéterminée. La Jordanie et l'Arabie saoudite ont également exprimé de véhémentes condamnations. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, a également condamné l'acte blasphématoire. Publiant un communiqué jeudi mettant en garde contre la gravité de ces actions qui contredisent les efforts mondiaux pour répandre la tolérance et la modération. Hier jeudi, des manifestants irakiens se sont rassemblés devant l'ambassade de Suède à Bagdad, la capitale, pour protester contre la profanation du Saint-Coran. Les manifestants ont brièvement fait irruption dans l'ambassade de Suède à Bagdad, restant à l'intérieur pendant environ 15 minutes. Ils sont partis pacifiquement après le déploiement des forces de sécurité. Des gens d'autres pays ont également protesté. Les Iraniens participant aux prières de la Eid al-Adha ont également condamné la profanation du Saint-Coran en Suède. La police suédoise a annoncé avoir délivré un permis de manifestation dont l'organisateur prévoyait de brûler à l'occasion de la Eid al-Adha un exemplaire du Saint-Coran devant la principale mosquée de Stockholm. Un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des lamelles de bacon et d'en brûler quelques pages, selon les journalistes de l'AFP sur place. C'est fou, c'est absolument insensé, ce n'est que de la haine qui se cache derrière les concepts de démocratie et de la liberté, a réagi Noah Omran, artiste de 32 ans, venu d'assister à la scène. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé les pays islamiques à s'unir et à contrer les complots malveillants des ennemis et du régime israélien visant à déstabiliser le monde musulman. S'adressant aux diplomates musulmans en poste à Téhéran et à l'occasion de la Eid al-Adha, Hossein Amir Abdollahian a déclaré que les adversaires de l'Oumma musulmane avaient élaboré des plans pour diviser les nations musulmanes. Le très haut diplomate iranien s'attarde à cette occasion au cas du Soudan pour dire que le pays est maintenant la cible de ce complot. Cependant, le ministre iranien a déclaré que les ennemis n'avaient pas réussi à atteindre cet objectif dans les conflits en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Toujours dans ses remarques, Amir Abdollahian a exprimé sa satisfaction quant au rétablissement des liens de l'Iran avec l'Arabie saoudite. Il a déclaré que l'Iran se félicitait de la normalisation de ses relations avec d'autres pays régionaux et musulmans, dont l'Égypte et le Maroc. Cependant, le ministre iranien a déclaré que les ennemis n'avaient pas réussi à atteindre cet objectif dans les conflits en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Le président iranien et le premier ministre pakistanais appellent à l'élargissement des relations bilatérales. Le bureau du premier ministre pakistanais a déclaré que le président iranien et le premier ministre pakistanais, lors d'une conversation téléphonique à l'occasion de la Eid al-Adha, avaient convenu de renforcer la coopération et les relations mutuelles dans tous les domaines. Selon le bureau des relations publiques du premier ministre pakistanais à Islamabad, le premier ministre Mohammad Shehbaz Sharif, lors d'une conversation téléphonique avec le président iranien Ibrahim Raisi, a félicité le gouvernement et le peuple iranien à l'occasion de la Eid al-Adha jeudi. Toujours selon la même source, les deux hommes se sont félicités et ont souhaité prospérité et bien-être au peuple iranien et pakistanais. Ils ont passé en revue les derniers développements liés aux relations et coopérations bilatérales. Shehbaz Sharif a appelé l'événement historique de l'ouverture du marché frontalier de Mand Pishin, soulignant qu'il est déterminé à coopérer avec le gouvernement iranien pour aider au bien-être et à la prospérité des deux nations voisines. En plus, Raisi et Shehbaz Sharif ont réitéré sur la nécessité de donner suite aux contacts et une coopération régulière de haut niveau pour l'amélioration des liens entre Téhéran et Islamabad. Le chargé d'affaires iranien à Londres évoque la possibilité de parvenir à un accord sur la levée partielle des sanctions. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Londres, Mehdi Hosseini Matin, a évoqué le processus de négociation indirecte entre Téhéran et Washington, évoquant la possibilité de parvenir à un accord sur la levée partielle des sanctions et l'échange des prisonniers. Hosseini Matin a déclaré dans une interview à USA Today « Nous sommes prudemment optimistes que cet accord sera conclu dans un proche avenir. » Il a expliqué que tout accord nécessite un texte objectif sur la table pour être discuté et signé. Le diplomate iranien a ajouté que les négociations entre l'Iran et les États-Unis dans ce domaine se déroulent indirectement à travers la médiation d'Oman. Il a déclaré que le Qatar et les Émirats arabes unis étaient également impliqués dans la facilitation des négociations. Le camp du groupuscule terroriste OMK en Albanie fait toujours l'objet de la perquisition policière. Selon les médias, la police albanaise a fait de nouveau une descente dans le camp du groupuscule terroriste et a recueilli plus d'informations sur ses activités déstabilisatrices. Selon les médias iraniens, la dernière opération a eu lieu après que la police a traité les informations obtenues des serveurs de l'OMK saisis la semaine dernière. Selon la police, le groupe a caché des informations sensibles. Par ailleurs, les médias locaux rapportent que les forces de police sont stationnées à l'entrée du camp et contrôlent tous les véhicules qui sortent. Les forces de police ont mené leur première opération la semaine dernière lorsqu'elles sont entrées dans le camp sur ordre du tribunal antiterroriste albanais dans le cadre d'une enquête sur les activités illégales du groupe basé dans le pays. des membres de l'OMK se sont violemment heurtés à la police et lui ont barré la route. Les affrontements ont fait plusieurs blessés parmi les éléments de l'OMK et un mort. Le groupe est une organisation terroriste notoire qui a mené de nombreux assassinats et attentats à la bombe contre des responsables et des civils iraniens depuis l'avènement de la révolution islamique en 1979 en Iran. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran poursuit le Canada devant le plus haut tribunal de l'ONU pour violation de l'immunité de Téhéran. Le gouvernement de la République islamique d'Iran a intenté une action en justice contre le gouvernement du Canada devant la Cour internationale de justice en tant que principal pilier judiciaire des Nations unies en raison de la violation de l'immunité internationale du gouvernement iranien. L'Iran a engagé des poursuites judiciaires devant le plus haut tribunal de l'ONU contre le Canada pour avoir violé l'immunité internationale du gouvernement iranien en désignant le pays comme sponsor du terrorisme sous des allégations fausses et injustifiées. Le dossier de l'Iran devant le tribunal exige également une compensation du Canada. Les violations des droits de l'Iran ont commencé en 2012, lorsqu'Ottawa a répertorié le pays comme sponsor du terrorisme au nom des accusations fausses et injustifiées, puis a saisi des biens et des avoirs appartenant au gouvernement iranien. Le communiqué indique que le Canada a poursuivi son mauvais processus malgré les protestations répétées de l'Iran. L'Iran, par cette décision, a une fois de plus montré son attachement à sa position de principe sur le règlement pacifique des différends et son engagement envers la primauté du droit concernant les relations entre les pays, indique le communiqué, exprimant l'espoir que le Canada changera sa politique politisée et cessera de violer ses obligations. Téhéran a déclaré que le Canada avait violé le droit international par des décisions illégales ordonnant la remise des actifs iraniens aux victimes de diverses attaques que le Canada impute à des groupes soutenus par l'Iran. Le tribunal, basé à La Haye, a confirmé dans un communiqué que l'Iran avait lancé mardi des poursuites judiciaires contre le Canada. La déclaration du gouvernement iranien a également rejeté les fréquentes accusations du Canada, selon lesquelles l'Iran soutient le terrorisme et viole les droits humains. La déclaration indique que le Canada a systématiquement violé les droits de l'homme, a soutenu les politiques étrangères dominatrices et interventionnistes des États-Unis et a agi en tant que complice dans les crimes inhumains perpétrés par le régime israélien en Palestine et en Asie du Sud-Ouest. Il ne faut pas oublier que le gouvernement canadien a dans son bilan noir anti-droits de l'homme le génocide de centaines d'enfants autochtones dans les écoles obligatoires et l'enterrement massif de ces enfants innocents, a-t-il déclaré, faisant référence aux découvertes récentes de centaines de tombes d'enfants autochtones dans d'anciens pensionnats obligatoires gérés par le gouvernement au Canada. Le Canada a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran et fermé son ambassade à Téhéran dans une décision surprise en 2012, alléguant diverses raisons, dont et notamment le soutien de l'Iran à la Syrie, ses activités nucléaires et les menaces présumées contre le régime israélien. Le Canada est un suiviste des États-Unis dans sa politique étrangère.